Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler à présent de la lutte contre la criminalité urbaine, le phénomène Kuluna à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays. Professeur Aoulou Kienge, directeur de l'école doctorale de criminologie de l'université de Kinshasa, est notre invité aujourd'hui. Des questions et préoccupations, les standards sont déjà ouverts, composez les 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de d'Okapi Service. Deb Sevita, dans la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jody Daniel Kachama au micro, bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, la ville de Kinshasa a enregistré le taux de criminalité le plus élevé au premier semestre 2025, selon le président de l'Assemblée provinciale. Les quartiers populaires et même ceux autrefois considérés comme calmes, aujourd'hui sont touchés par la criminalité. On enregistre des cas de braquage, des cambriolages, l'agression nocturne, la violence urbaine. Perpétrés par des gangs organisés, des jeunes armés de machettes ou d'armes artisanales, communément appelées Kuluna, constituent une menace majeure dans presque tous les quartiers, y compris même la commune de La Gombe est aussi touchée par ces phénomènes Kuluna. Bon, il n'y a pas que Kinshasa, il y a aussi d'autres villes, dans d'autres villes à travers le pays, le phénomène Kuluna. Fait parler de lui dans ces différentes villes-là. Alors comment lutter efficacement contre la criminalité urbaine? Professeur Raoul Kienge, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati.
Bien, il s'agit plutôt de Jody Kachama. Vous êtes directeur de l'école doctorale des vous êtes directeur de l'école doctorale des criminologies de l'université de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on entend par criminalité urbaine, professeur?
Merci bien. Vous permettez, Monsieur Kachama, de apporter une petite correction concernant justement l'école de criminologie.
Oui.
Donc, nous sommes une école de criminologie et c'est une école spécialisée. L'école de l'université de Kinshasa. Et c'est quand même différent d'une école doctorale comme telle là.
D'accord.
Comme telle selon le texte qui réglemente les écoles doctorales.
D'accord, c'est noté, professeur.
Merci beaucoup donc de l'occasion que vous me donnez. Eh bien, on considère la criminalité urbaine comme un ensemble de faits criminels qui sont commis dans un milieu urbain au cours d'une période déterminée.
Et selon les statistiques, la ville de Kinshasa a enregistré le taux de criminalité le plus élevé au premier semestre 2025. D'après vous, quelles sont les raisons?
Bien, et nous, on aurait, en tant qu'universitaire, souhaité avoir accès aux données statistiques produites par les autorités urbaines, hein, pour pouvoir les analyser afin de pouvoir effectivement orienter les décisions autrement et éventuellement comprendre le phénomène d'une manière plus précise. Actuellement, ces données statistiques ne sont pas du tout accessibles au niveau universitaire. Et c'est vrai qu'on peut parler du sentiment d'insécurité.
Allô? Ben, je pense qu'on a perdu notre invité, professeur Raoul Kienge, qui est directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. On va tenter de le joindre de nouveau tout à l'heure. Vous avez des questions et préoccupations sur ce phénomène de criminalité urbaine? N'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radioukapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Et oui, aujourd'hui, nous parlons de la criminalité urbaine. Justin Koulou nous appelle depuis Fungurume. Justin Koulou, bonjour.
Je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi ainsi qu'à notre invité qui est aussi bon.
Voilà, est-ce que Fungurume également enregistre des cas de criminalité?
En tout cas, il peut être le numéro un en criminalité. Puisque c'est chaque jour on ramasse les corps d'hommes, il y a des maisons, les gens qui entrent dans les maisons tuent les gens avec des machettes, et ainsi de suite. Ça surpasse même Kinshasa.
Wow. OK.
Alors, je voulais dire ceci. Nous avons les services de sécurité. On les paye pour sécuriser la population. À l'occurrence, si on peut citer la police, la NER, bureau D, il y a même ce qu'on appelle le père civil, il y a plusieurs appellations. Mais on trouve un cadavre qui est juste sur la terre, il y a une maison perquisitée, on casse les portes et tout qu'on sort. Mais on n'inquiète pas ces autorités-là qui sont censées les supporter. J'ai toujours donné l'exemple. Si vous êtes dans votre maison, vous donnez la clé à un enfant que vous allez garder la maison. Si vous trouvez les histoires pillées dans la maison, volées, la première, une personne a demandé, c'est celui-là qui vous avait laissé la clé. Mais nous avons les autorités, les policiers, les militaires, les hauts gradés et les non gradés. Mais les gens meurent comme... On les tue comme s'ils ne sont pas sécurisés. Et ils sont même de plusieurs femmes, cinq femmes, ils sont même des chambouilles. Ils mettent au monde comme les gens qui ne devaient même pas passer nuit dehors. Ils passent nuit dans des maisons. Et ensuite, si on s'est déchargé, ces chefs-là, les généraux, quand il y a ces cas-là, ils mettent les colonels ou soit les majors, l'OPJ, ils lui demandent, ils s'expliquent publiquement. Si au cas où ils ne trouvent pas une explication valable, on les change carrément. Ce n'est pas le tabou de garder un policier 5 ans sur le même endroit. Il s'habitue avec les gens et il y a même facilité de coopérer avec les bandits. Puisqu'ils sont aussi cités, mais sauf que je n'ai pas de preuves, mais on les cite qu'ils participent aux criminalités aussi. Puisque ceux qui viennent nous tuer sont en uniforme. Et aussi, on les voit en uniforme. Donc, il y a une très grande confusion. Les changements aussi est très nécessaire, mais c'est joli s'il y a les autorités qui nous suivent, qu'ils commencent. On nous amène aussi d'autres méthodes de traquer les bandits. C'est pour ça qu'ils ont fait leur formation.
Merci beaucoup, Justin Koulou de Fongouroumé. Ruffin, vous êtes à Likassi. Bonjour.
Bonjour, c'est Ruffin. Bonjour, il pour à Likassi, oui, oui.
Quelle est votre question, Ruffin?
J'ai juste une petite préoccupation.
Oui.
Vous savez, dans notre pays, la RDC, beaucoup de gens aiment parler pour ce qui concerne les problèmes de banditisme urbain. Ils aiment jeter toujours des cailloux sur l'État. Oh, c'est l'État, c'est l'État. Mais cette affaire concerne tout le monde. Ce n'est pas toujours l'État. Nous sommes en train de voir, par exemple, les gens des églises en train de gagner beaucoup d'argent, de construire une maison, envoyer leurs enfants en France, aux États-Unis, oui, dans des pays étrangers. Mais ils ne savent pas comment entretenir, encadrer même les petits chèques qui sont en train de circuler, dans nos rues, tout en leur donnant la chance d'aller même continuer avec quelques formations, afin qu'ils ne parviennent pas à donner des intimidations au sein de la société.
Oui.
Même les commerçants, c'est tout le monde, c'est presque tout le monde, oui. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont en train de voir comment est-ce que les chefs sont en train de dormir dans la rue, oui. Mais ça peut autant, parce que ces gens-là, ce sont eux qui vont commencer vraiment à semer des troubles de terrain presque partout. Ainsi, au niveau de l'État, l'État doit savoir aussi encadrer parfois les gens qui vendent du chanvre, par exemple. Vous allez trouver partout des staffs, les gens en train de filer du chanvre. Et même la boisson alcoolique appelée, moi je ne sais pas, le whisky. Ils ne sont pas inquiétés, ces gens-là. Comment ça fait-il qu'une masse de la population va commencer, moi je ne sais pas, à partager la vie dans de telles histoires, mais sans pour autant être inquiétés? C'est ça le problème. Donc, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit l'État, que ce soit nos pasteurs qui reçoivent des dîmes et autres, et que ce soit, voire même les gens qui se trouvent, les commerçants et autres, là, ils sont en train de voir dans leur véhicule comment est-ce que ces gens-là sont en train de s'embiler. C'était ça ma préoccupation, messieurs les journalistes.
Merci, Ruffin, de Likassi. Professeur Raoul Kiengé, le premier intervenant, Justin Koulou, s'interroge, il comprend pas pourquoi il y a beaucoup de cas de criminalité alors que nous avons les services de sécurité de l'État, l'armée, la police et les renseignements qui sont là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bien, effectivement, il a raison de se poser une question. Et on peut considérer que ce sont des défis de la gouvernance sécuritaire.
Professeur, là, on vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien. Peut-être que je vais vous demander de vous déplacer ou je sais pas. Si vous avez activé la main libre, vous pouvez peut-être désactiver pour nous permettre de bien vous entendre.
Ok, j'ai désactivé. Je pense que là vous m'entendez mieux.
Oui, là ça va très bien.
Oui, je disais que ce sont des défis sécuritaire auxquelles les autorités gouvernementales et provinciales font face. Et il y a des dispositions qui sont entreprises en ce qui concerne par exemple la police. Et il y a donc la réforme de la police qui a été initiée depuis un certain nombre d'années. Et il y a actuellement une loi qui a été votée pour budgétiser cette réforme, la loi de programmation, d'une part. Et donc, je pense que l'autorité au niveau national est en train de travailler sur cet aspect-là pour améliorer l'efficacité de la police. D'autre part, il y a aussi des conseils locaux de sécurité qui sont mis en place dans les différents quartiers communes. Et cela implique qu'il y ait d'autres autorités administratives, les chefs de quartier, des rues, et la population s'implique également pour pouvoir remonter les menaces à la sécurité au niveau de l'autorité pour des actions plus efficaces. Et donc il faudrait en fait une approche plus intégrée, n'est-ce pas, de la gouvernance sécuritaire, et pas seulement une approche qui commence par le sommet. Donc il faudrait effectivement qu'au niveau local, la population s'implique dans ce qu'on appelle maintenant la coproduction de la sécurité. Par ailleurs, il faut considérer que nous sommes dans un pays en guerre, hein, donc il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et d'autre part, il y a aussi donc le traitement de ces différents services chargés de la sécurité qui doit être amélioré. Et donc, ce sont des éléments qui alimentent, si vous voulez, ces défis de la gouvernance sécuritaire.
Bien, Ruffin Delicacy, il s'interroge, il s'étonne parce qu'il voit souvent les jeunes en train de fumer, ou les certaines personnes en train de vendre du chanvre, les whisky. Alors il s'est dit, est-ce que il y a un lien entre la consommation des ces liqueurs, du whisky, du chanvre avec la criminalité?
Oui, exactement. Nous avons montré qu'il y a un lien entre la consommation des adjuvants, des stupéfiants, notamment du chanvre, des ododo et toutes ces boissons alcooliques qui sont maintenant vendues sans un contrôle étatique. Et c'est vraiment la consommation de ces produits alimente la violence. C'est clair qu'il n'y a pas de Kulula sans que les jeunes aient consommé la drogue ou d'autres boissons alcooliques comme le chanvre et autres. Donc, il faudrait aussi que dans l'approche de la gouvernance sécuritaire, on intègre tous les éléments qui contribuent à alimenter cette insécurité ou ces actes de violence. Donc, en fait, il faudrait une action plus globale, une action plus globale de l'autorité qui intègre les différents secteurs. Il faut une action concertée, pas seulement de la police, mais aussi des autres services de l'État. Donc, il y a, par exemple, l'organisme de lutte contre la drogue qui doit aussi être impliqué dans cette approche. Mais là aussi, la population sait où est-ce que la drogue se consomme, où est-ce que le chanvre est cultivé, où est-ce qu'il est trafiqué. Et donc, ces informations doivent aussi pouvoir remonter à l'autorité pour qu'on prenne des mesures plus globales.
Bien, nous parlons de la lutte contre la criminalité urbaine. Achille, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
On vous écoute, Achille.
Oui, merci pour la parole. Alors, je pense que ce sujet est revenu plusieurs fois dans vos émissions, que ce soit dans le DPPA, au Copy Service, avec des différents invités, chacun avec des analyses. Je pense que la situation n'a toujours pas changé et continue toujours à s'empirer davantage. Par exemple, on donne la situation socio-économique qui est devenue compliquée parmi les causes. Est-ce que si on se pose la question, parmi les pays où leur vie sociale est stable, il n'y a pas la criminalité? Je pense qu'il y a toujours la criminalité. Nous l'avons toujours dit ici, les pays devraient maintenant passer à des choses concrètes, à des choses sérieuses, parce que vous savez, la justice a montré ses limites. Parce que quand vous êtes à Lubumbashi, la plupart de ceux qui sont jugés ont toujours été déjà jugés pour les mêmes faits. Peut-être il avait commis des crimes, il a été jugé, puis condamné, puis libéré. Et après trois ou quatre jours, vous le verrez, il va encore commettre des mêmes faits. Donc ça met un peu quoi en doute notre justice, parce que le président avait déjà dit que la justice est malade. Alors, moi, nous avons toujours dit, la peine de mort serait vraiment les seuls remèdes. Parce que je pense que beaucoup vont contredire, je pense que les complices, ceux qui sont contre la peine de la mort, peut-être son complice. Parce que vous savez, à l'arrivée de Mme Lovin, que je redis ici, Issel Mbashi n'avait pas vraiment à dormir. Quand on a tué, on a pendu les criminels en plein air, on n'avait plus jamais entendu, on pouvait dormir à des heures, même porte ouverte. Donc, je pense que c'est, on devait passer à la peine de mort. Parce qu'on peut être contre la peine de mort si on n'a pas encore été endeuillé, si dans votre famille, on vous a pas encore enlever un être cher, là on peut se dire, on peut se taper dans la boîte,
non, oui,
on peut faire ceci avec beaucoup d'analyse.
Oui. Depuis un moment, on parlait de, il y a eu un regain d'insécurité à Lubumbashi, mais actuellement, on peut dire que la situation est calme et sous contrôle.
Bon, actuellement, je pense qu'à 50%, il est calmement. Il y a toujours des cas, surtout les cambistes qui ont toujours été la cible. Avec en complicité avec des motards. Bon. Donc, c'est pour ça que nous disons que la peine de mort, si notre pays n'a pas encore levé, je sais pas, on a parlé de la levée du moratoire, je pense que c'est le temps. Allô?
Oui, c'est le temps, d'après vous, d'appliquer la peine de mort. Merci beaucoup. On va donner la parole à Blaise Saïdi de Kisangani. Bonjour, Blaise.
Oui, bonjour, cher Jeudi, une fois de plus, c'est à l'invité également, bonjour. Cher Jeudi, la situation des criminalités urbaines en RDC n'est pas un phénomène isolé, mais un ensemble de facteurs structurels tels que le chômage, l'impunité et la faiblesse institutionnelle. En renforçant la justice et en créant des opportunités socio-économiques et en favorisant la collaboration police et population en République démocratique du Congo, pourra quand même chercher à progressivement à réduire l'insécurité dans des centres urbains. Cher Jeudi, à mon avis, je vois que ça, c'est une situation qui donne une défaillance au niveau des agents de l'éducation. Et puis, l'État, puisque aujourd'hui, cher Jeudi, vous allez comprendre ensemble avec moi que dans notre pays, vous n'allez pas faire 500 mètres sans une église. Vous n'allez pas faire 1000 kilomètres, dont 1000 mètres sans une école. Et si vous récupérez école et église, tout ce sont les agents éducatifs, mais vous verrez que non, sur terrain, c'est autre chose. Mais néanmoins, je dois répondre quand même à cette question. La première question, comment renforcer la confiance entre les citoyens et la police, souvent perçue comme des compis. La deuxième question, la police, les sociétés ou encore les sous-commissariats de la police rendent-ils régulièrement la criminalité pour chiter quels sont les aspects en matière de lutte contre la criminalité urbaine. Puisque aujourd'hui, vous allez comprendre que non, les problèmes de criminalité urbaine, on laisse soit au niveau de la mairie, soit on va uniquement les gouverneurs. Par contre, non, il y a les gens qui doivent faire les rapports pour amener ça au niveau. Il y a les gens qui doivent faire les rapports au niveau de c'est-à-dire les avenues et amener ça au chef de quartier. Les chefs de quartier sont tous pas amenés bloqués ou encore jusqu'au niveau où on va atteindre les problématiques. Il faut chercher à parler la situation, cher Jody. J'ai à ce niveau-là pour laisser place à personne.
Bien, merci Blaise Saïdi. Professeur Raoul Kenge, vous avez suivi les différentes préoccupations. Achille, d'après lui, s'il y a un regain de criminalité, c'est par rapport à la situation sociale précaire. Et puis, il déplore les cas des récidives à Lubumbashi et il propose plutôt la peine de mort comme solution. Et il nous dit que souvent, ce sont les cambistes qui font l'objet des attaques des criminels, etc. Professeur Raoul.
Bien. Je suis défavorable à l'idée de l'application de la peine de mort parce que je vois quand même une contradiction dans l'intervention de notre ami Achille de Lubumbashi parce que tout en disant que la justice a montré ses limites et qu'elle est malade, comme l'avait dit le chef de l'État, il propose la peine de mort, mais la peine de mort doit être rendue par la même justice malade. Et donc là, il y a une contradiction tout de même. Et c'est vrai que le problème de l'insécurité n'est pas seulement un problème judiciaire, parce qu'en fait, la réponse judiciaire pénale est une des réponses possibles. On ne peut pas considérer que c'est l'unique réponse. Mm-hmm. Lorsque Blaise Kisangani suggère qu'on puisse mettre en place des structures de renforcement des droits économiques et sociaux des jeunes, et c'est une des solutions qui n'est pas du tout judiciaire, mais qui peut dérouter un certain nombre de jeunes pour qu'ils cessent de s'investir dans la violence. Donc, je ne pense pas que la peine de mort puisse être efficace. Je voudrais qu'on considère aussi que le problème de l'insécurité se vit dans plusieurs grandes villes. En parlant de Kinshasa, par exemple, il faut considérer que la population de Kinshasa a énormément augmenté, alors que les infrastructures n'ont pas changé. Donc, cet accroissement de la population dans des conditions de précarité, aussi bien des agents publics, des agents chargés de la sécurité, comme la police éventuellement ou d'autres forces de sécurité, au niveau des familles, et ça constitue un véritable problème qui ne peut pas être résolu par la voie judiciaire uniquement. Mmh. Donc, on doit considérer que le nombre de jeunes qui ont besoin d'être rassurés par rapport à leur avenir professionnel ne fait qu'augmenter. Et on est un pays majoritairement jeune. Quand on est dans les rues de Kinshasa, on voit le nombre de jeunes apparemment âgés de moins de 30 ans ou de 40 ans. Donc, il y a là un capital humain qu'on ne peut pas réduire uniquement par leur implication dans la violence. Donc, je pense que des mesures de création d'emplois, des mesures de réduction du chômage des jeunes vont certainement contribuer à résoudre le problème d'insécurité. Mais on ne pourra pas mettre un terme à des questions d'insécurité parce que dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du monde, ce sont des défis auxquels les gouvernements font face. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est de prévenir chaque fois et de ne pas être réactif. Donc, il faut anticiper des mesures compte tenu de l'accroissement de la population, compte tenu de l'accroissement de la pauvreté, compte tenu de l'accroissement du chômage dans les milieux des jeunes. Donc, tous ces éléments-là doivent pouvoir permettre à l'autorité d'anticiper des mesures à prendre par une présence policière, notamment, et aussi par une collaboration plus intense avec les communautés locales.
Bien. Blaise Haïdi se pose la question de savoir quel est le rôle des bourgmestres dans la lutte contre la criminalité, parce que c'est, d'après lui, on a toujours l'impression que c'est la responsabilité revient au maire, au gouverneur de s'investir dans la lutte contre la criminalité urbaine.
Les bourgmestres ont un rôle très important à jouer. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans la presse que le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité de l'Intérieur, a eu une réunion avec les bourgmestres des différentes communes de la ville de Kinshasa dans le cadre de la mise en œuvre des conseils locaux de sécurité.
Oui.
Donc, de ce point de vue-là, dans le cadre de cette coproduction de la sécurité, les bourgmestres ont un grand rôle à jouer. Donc, ce sont aussi des agents qui interviennent dans la sécurité, mais il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient formés dans ce nouveau rôle. Il faut qu'ils comprennent quelles sont les responsabilités qui sont les leurs dans cette nouvelle configuration de la coproduction de la sécurité et de la mise en œuvre des conseils locaux de sécurité. Donc, je pense qu'on doit pouvoir s'appuyer sur ces autorités administratives au niveau local, hein, pour pouvoir développer la collaboration avec la, entre l'État et la population.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière. Comment lutter efficacement contre la criminalité urbaine? Safari, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Je salue également monsieur l'invité. Oui, par rapport à, donc, au taux de criminalité, j'aimerais parler parce que je constate que la criminalité ne peut pas quand même prendre fin tant que les hommes seront vivants sur cette terre ici. Mais on pourra quand même réduire les taux de criminalité. Par exemple, là où je suis ici à Bounia, je pense que quand même les autorités ont lutté, hein, parce qu'il y avait une époque où des petits garçons là appelés des Kulina à Kinshasa, ici on les appelle des Chege, ils avaient vraiment augmenté le taux de criminalité à un niveau même où on ne pouvait plus marcher avec des petites sommes sur vous, sinon ils vous déchiraient. Sinon, donc, avec des lames de rasoir. Alors, cela est totalement fini parce que je ne le constate encore plus actuellement. Donc, c'est ça. Alors, pour parler de la solution pour réduire le taux de criminalité, moi, je pense que pour le pays comme la RDC, le gouvernement pourrait quand même faire de renforcer la sécurité. Et là, peut-être, on pourra lutter juste pour réduire le taux de criminalité, mais pas pour finir avec la criminalité. Voilà une contribution pour l'émission d'aujourd'hui. Merci, monsieur Jody.
Merci, Safari depuis Gabarrière. On ne peut pas en finir complètement avec la criminalité, mais on peut réduire sensiblement le taux de criminalité dans nos villes. Professeur Raoul King.
Effectivement, hein, les personnes qui pensent qu'on peut éradiquer ce qu'on appelle criminalité, je pense que ne voient pas le problème de manière pertinente, parce que en fait, la criminalité vient essentiellement des conflits d'intérêts, hein, que des individus peuvent manifester au niveau du groupe social. Nous sommes inégalement répartis en ressources, même si nous sommes égaux devant la loi, mais nous n'avons pas les mêmes ressources, nous n'avons pas les mêmes positions sociales, nous n'avons pas les mêmes projets par rapport à la reconnaissance individuelle, etc., etc. Donc, les individus auront toujours des projets à réaliser, même si ces projets peuvent les mettre en porte-à-faux vis-à-vis des normes établies, notamment des normes pénales. Donc, on ne pourra pas éradiquer la criminalité, c'est clair. Et d'ailleurs, nous ne connaissons pas cette criminalité, parce que la criminalité réelle, elle est la grande inconnue, hein. Dans aucun pays, on connaît tous les faits criminels qui se commettent. Et donc ça, c'est quand même impossible. On peut pas mettre fin à quelque chose qu'on ne connaît même pas. Tout ce qu'on connaît, c'est justement ce qu'on appelle la criminalité apparente, qui est portée à la connaissance des autorités de la police ou du parquet. C'est tout ce qu'on arrive à connaître. En dehors de ça, on parle du sentiment d'insécurité. Voilà pourquoi il est très important que la population collabore avec les services chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, parce que c'est justement cette interaction entre la population et ses services qui permet de connaître les faits criminels qui se commettent. Mais si il n'y a pas de collaboration entre la population et ses services, les faits vont se commettre, mais ça restera des faits inconnus pour l'autorité en charge de la sécurité des personnes et des biens, et peu de mesures à ce moment-là peuvent être prises. Donc oui, et c'est lorsqu'on prend ces mesures à la suite des informations avérées que effectivement on peut arriver à réduire la criminalité comme le sujet Monsieur Safari de Bounia. Donc,
professeur Raoul,
oui, il faut cette collaboration.
Oui. Le professeur Raoul, le gouvernement avait mis en place les comités locaux de sécurité. Alors quel rôle ces comités vont jouer dans la réduction ou la lutte contre la criminalité urbaine, et comment aider ces comités à jouer pleinement leur rôle?
Vous savez, aujourd'hui, la gestion ou la gouvernance ne peut être efficace que si on gère l'information. Parce que justement, tous les événements qui se produisent produisent une information, en fait. Il y a une information qui est produite, cette information peut être vérifiée et portée à la connaissance de l'autorité chargée d'intervenir pour que cette autorité puisse effectivement prendre des mesures nécessaires. Et donc, tant que cette information n'est pas bien gérée, tant qu'elle n'est pas communiquée, tant qu'elle n'est pas analysée, on ne peut pas espérer que l'autorité prenne des mesures adéquates. Voilà pourquoi ces comités locaux de sécurité sont très importants pour pouvoir justement transmettre cette information à l'autorité, pour pouvoir veiller aussi.
Allô? Allô, professeur Raoul? Bien, et quelques soucis au niveau de la communication. On va. Allô, vous êtes là?
Effectivement, je vous ai perdu. Donc, ces conseils locaux de sécurité sont importants pour pouvoir produire cette information, gérer cette information et la transmettre à l'autorité compétente pour que des mesures adéquates soient prises. Et donc, je pense que entre la répression face aux actes de criminalité et la prévention, la chose la plus importante, c'est la prévention. Et la prévention est mise en œuvre grâce justement à ces informations sur la situation réelle, sur les menaces potentielles à la sécurité. Et donc, c'est ces informations préalables qui doivent être transmises à l'autorité pour que des mesures préventives soient prises. Et je souhaiterais également que toutes ces informations soient communiquées aux experts pour que des analyses soient faites, afin que éventuellement les autorités puissent prendre des décisions sur base des analyses pertinentes faites par des experts.
Bien, Alberton nous appelle de Kasumbalesa et Patrick Néron Kadiata de Mweneditu. Alberton, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité,
bonjour. Bonjour Alberion, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah oui, par rapport à ce petite question, quelles sont les méthodes prises par les comités mis en place pour éradiquer les criminels, et aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le taux de la criminalité en République démocratique du Congo, et tout et tout?
Merci beaucoup. Patrick Néron de Mweneditu. Bonjour.
Bonjour, chers journalistes. Je salue aussi l'invité qui est au plateau, aussi à tous les auditeurs de la radio Kapi. Je voulais juste contribuer à ce débat, chers journalistes. Selon moi, pour lutter efficacement contre la criminalité à Kinshasa, il est crucial d'adopter une approche multidimensionnelle qui englobe la sécurité, le développement socio-économique et la participation communautaire. Cela implique une amélioration de la gouvernance, des forces de l'ordre et des services sociaux, ainsi qu'une implication accrue de la population locale dans la prévention et la résolution des problèmes de criminalité. Voici aussi quelques critères clés pour mettre fin à la criminalité. Nous avons d'abord le renforcement des institutions et de la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance locale, mettre en place des mécanismes de transparence et de responsabilisation pour lutter contre la corruption et amélioration et améliorer quoi la gestion des ressources publiques et aussi la réforme de la police et de la justice, c'est-à-dire renforcer la capacité des forces de l'ordre, améliorer leur formation et leur équipement et garantir un accès équitable à la justice pour tous. La décentralisation aussi et la participation citoyenne, impliquer les communautés locales dans la prise des décisions et la gestion des affaires locales pour une meilleure adaptation des politiques aux besoins spécifiques de chaque quartier. Le développement socio-économique, c'est-à-dire on peut faire une création d'emplois et des perspectives économiques, lutter contre le chômage et le sous-emploi, notamment chez les jeunes, en favorisant l'investissement, la formation professionnelle et le développement des petites entreprises. C'est-à-dire, chez les journalistes, en combinant ces différentes approches, il sera possible de créer un environnement plus sûr et plus propice pour le développement socio-économique de Kinshasa en réduisant les facteurs de risque de criminalité.
Merci beaucoup, Patrick. D'accord. Vous avez beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup. La criminalité, c'est pas toujours Kinshasa. Bon, il y a beaucoup de villes qui sont touchées par là. Et vous avez proposé une combinaison d'approches, voilà, pour pas éliminer, éradiquer complètement, mais réduire la criminalité. Maître Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il n'est plus en ligne. Professeur Raoul Kingé, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je suis d'accord avec Patrick de Moineguitu. Comme je l'ai dit au début, effectivement, il faut une approche global hein, de la sécurité. En fait, lorsque nous parlons de la sécurité, on a tendance à réduire cela justement à l'intégrité physique, disons à la vie, à l'intégrité physique des personnes. Mais au-delà de ces droits, il y a les droits plus fondamentaux, c'est justement les droits socio-économiques. Et donc, il faut des politiques sociales et économiques, d'accès à l'emploi, pour des jeunes et pour des couches vulnérables qui vivent dans la précarité. D'autre part, je ne cesse d'insister sur la participation des communautés locales parce que aujourd'hui on est en train de parler de la coproduction de la sécurité. Et n'oublions pas que on est un pays où les armes, disons, on est en guerre hein, constamment. Il y a plusieurs poches d'insécurité où des armes sont parfois utilisées. Donc, il y a tout un travail qui va être fait sur le contrôle des armes légères et des destructions massives. Donc, toutes ces mesures doivent être conjuguées. On a parlé aussi tout à l'heure du contrôle des trafics des boissons alcoolisées et tout cela, ou de la culture du chanvre, du trafic du chanvre. Donc, il y a tout un ensemble de mesures hein, qui doivent être prises dans un cadre plus global. C'est ce que nous appelons, en fait, une approche intégrée, de la sécurité. Hein, et c'est ça qui peut effectivement contribuer à réduire les actes d'attente, les actes qui attendent à la sécurité des personnes et des biens. Parce qu'effectivement, c'est ça la mission de l'État, c'est de protéger la population et leurs biens. Mais cette protection passe par, d'abord, la question sociale et économique qui doit être prioritaire. Hein. Parce que si des personnes n'ont pas accès à l'emploi, un emploi rémunéré qui leur permet de faire face à leurs besoins et tout cela, les individus ne vont pas disparaître par inaction. Et donc, ils vont mettre en place des stratégies la captation des moyens financiers pour pouvoir vivre, mais en le faisant, ils contribuent à alimenter l'insécurité. Donc, il ne faut pas que ça soit un cercle vicieux. Vous voyez? Donc, pour moi, on doit prioriser, en tout cas, des mesures sociales et économiques et également le renforcement des les capacités d'intervention des forces de l'ordre, notamment police, éventuellement les autres services de renseignement qui doivent travailler de manière efficace pour gérer l'information, hein, et afin de prévenir les menaces à l'insécurité des personnes.
Bien, Maître Gaston Gandou, bonjour, vous êtes à Kinshasa.
Jeudi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par
rapport... Désolé, c'est notre invité.
Oui, oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la criminalité urbaine?
Bon, certains penseurs ou analystes pensent que pour lutter efficacement contre la criminalité urbaine en RDC, ils exigent une approche holistique qui prend en compte les causes profondes du phénomène et qui implique tous les acteurs de la société. C'est une grande question que nous posons. Quelles sont les causes profondes du phénomène? Si les invités peuvent me dire, quelles sont les causes profondes du phénomène? Mais aussi, quels sont les acteurs, qui doivent être impliqués de la société, qui doivent être impliqués pour lutter efficacement contre ce phénomène?
Bien.
Vous pouvez nous expliquer là-dessus.
D'accord. Merci. Professeur Raoul King.
Bien, nous avons abordé toutes ces questions-là. En fait, la question de la criminalité comme ensemble des faits criminels commis dans un milieu donné est intimement liée à la question de la gouvernance, ok? Parce que l'autorité publique a pour mission principale de protéger les personnes et leurs biens. Mais pour ce faire, il y a d'abord des droits créances que l'État doit pouvoir assurer aux citoyens pour que les citoyens puissent mener une vie honnête, une vie ne constitue pas de la transgression des normes établies. Ok. Et donc ces deux éléments pour moi sont essentiels. Les différentes causes que l'on peut citer vont se rattacher à l'un ou l'autre de cet élément. La capacité de l'État de pouvoir garantir la sécurité et d'autre part, la capacité de l'État de garantir aussi une vie honnête des citoyens. Voilà. Donc à travers des actions économique, la lutte contre le chômage, l'accès à l'emploi, l'aménagement des cadres de vie, l'aménagement de l'environnement, l'éclairage des villes, et tous ces mécanismes-là, justement, sont en fait des devoirs que l'État, que l'autorité publique doit assurer pour garantir cette sécurité. Alors, quels sont les acteurs? Effectivement, on a souvent pensé dans cette perspective uniquement à l'État. C'est vrai que l'État est le premier acteur à travers les différents services d'ordre et de sécurité, mais et dans ce sens-là, on voit plus le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, mais on ne voit pas le ministère de l'Économie, on ne voit pas le ministère de l'Industrie, on ne voit pas le ministère de la Formation professionnelle, on ne voit pas le ministère de l'Éducation, vous voyez? Donc, c'est tous ces acteurs-là, n'est-ce pas, qui doivent intervenir pour pouvoir favoriser, en fait, l'intérêt général. L'intérêt général, c'est créer des conditions pour que d'autres citoyens puissent pouvoir investir et créer de l'emploi pour des milliers de jeunes qui sont au chômage. Vous voyez? Donc, il faut vraiment une action concertée. C'est pour ça que j'ai dit que la question de la criminalité est intimement liée à la gouvernance.
Voilà.
Dans ces différentes dimensions. Et ça implique plusieurs acteurs, pas seulement les acteurs de la police ou les acteurs directement chargés de la sécurité des personnes, mais il y a aussi des acteurs qui interviennent au plan économique pour pouvoir développer l'économie, okay, et créer des emplois, investir. Et donc ça, c'est une responsabilité qui est plus collective, ouais, qui est plus collective.
Bien.
Voilà. Et l'État doit créer les conditions pour cela.
Est-ce qu'on peut dire, professeur, que le rôle du comité, des comités locaux de sécurité, se limite à la production et à la gestion de l'information?
Mais ils doivent, en fait, tout commence par l'information. Ils doivent pouvoir produire cette information-là parce que pour intervenir, ils diront qu'ils n'ont pas les moyens. Mais pour produire l'information, ils n'ont pas besoin des moyens. Vous voyez? Et donc, c'est ça le préalable. Mais aussi, ces autorités disposent au niveau local des forces de l'ordre. Donc, avec lesquelles ils interagissent et ils travaillent ensemble pour garantir la sécurité au niveau local. Hein? Mais il faut qu'on sache gérer l'information lié à des menaces sécuritaires. On ne peut pas être indifférent au niveau local lorsque il y a des menaces sécuritaires pour interpeller l'État. Il faut transmettre l'information le plus tôt possible à l'autorité compétente pour que effectivement des mesures adéquates soient prises pour anticiper, hein, anticiper l'action. Pour éviter que ces menaces se transforment en insécurité carrément. Parce que les choses ne se produisent pas de manière subite.
Oui.
Il y a des éléments qui annoncent la dégradation de conditions de sécurité dans un milieu. Ça, on sait le remarquer.
Voilà, ça, on sait les remarquer, mais aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, il y a certains des quartiers où vous ne pouvez pas rentrer tard, 22h, 23h, vous ne pouvez rentrer, vous pouvez pas rentrer chez vous, parce que vous craignez, de rencontrer, des criminels, des koulounas, avec des machettes qui vous attendent au coin de la rue. Et tout ça, ça, le sentiment d'insécurité est toujours permanent dans certains quartiers de Kinshasa.
Effectivement, et ce sont ces quartiers-là qui doivent être investis par les forces de l'ordre. C'est dans ces quartiers-là que des patrouilles doivent être plus régulières. Hein? Et aujourd'hui aussi, les gens ne se rendent pas compte, mais peut-être que nous avons besoin d'effectifs, hein, dans nos forces de police. Aujourd'hui, quel est le parent qui est disposé à envoyer son enfant dans les forces de police ou de défense? Mais nous sommes exposés et nous nous plaignons de l'insécurité. Mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent travailler pour que d'autres soient en sécurité. Donc, on doit alimenter aussi l'essence patriotique de servir le pays, de servir la population, de servir les autres, nos concitoyens, hein, pour que ils soient en sécurité. Donc, s'il y a un quartier où l'insécurité est très élevée, c'est dans ces quartiers-là qu'on doit investir le plus grand nombre de forces de police pour qu'il y ait des patrouilles à tout moment et que la population soit en mesure de se sentir en sécurité.
Bien,
c'est clair.
Merci.
Mais si il n'y a pas de policiers, on a l'impression qu'ils sont en effectif réduit et tout cela, évidemment, ça ne peut qu'alimenter ces sentiments d'insécurité.
Bien, merci professeur Raoul Kenge, directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.